C'est un dessin paru dans l'édition internationale du New York Times fin avril. On y voit le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou en chien, avec étoile de David autour du cou, tenu en laisse par un Donald Trump aveugle et portant une kippa. Ce dessin a suscité dès sa parution une vive polémique aux États-Unis. Le journal, en plus de présenter ses excuses, a entamé une procédure disciplinaire contre le responsable éditorial, puis a mis fin à sa collaboration avec l'auteur du dessin. Et lundi, le prestigieux quotidien américain a annoncé purement et simplement la suppression de l'espace dédié aux dessins de presse. Alors, décision justifiée ou radicale, quel message envoie-t-elle à l'ensemble de la profession? Est-ce que cela peut créer un précédent pour les dessinateurs de presse? En somme, leur avenir est-il menacé au sein des journaux? Et surtout, ne le sent-il pas de plus en plus par les réseaux sociaux? Deux dessinateurs qui collaborent à deux grands journaux sont avec nous. Patrick Chapat est avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le dessinateur vedette, on va le dire comme ça, hein, du New York Times depuis une vingtaine d'années. Vous avez même introduit le dessin dans le quotidien. Vous y publiez deux dessins par semaine et puis toutes les semaines, vous collaborez au Temps de Genève où vous êtes aujourd'hui. Et puis parfois dans le Spiegel, le Canard Enchaîné. Vous avez cofondé avec Plantu la fondation Cartooning for Peace qui défend les dessinateurs de presse. Et avec nous en studio, Xavier Gors. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes, vous, le créateur des indégivrables, ces fameux pingouins qu'on retrouve très régulièrement dans le quotidien Le Monde. On va commencer évidemment sur la décision qu'a prise le New York Times de supprimer les dessins de presse. Alors déjà, les dessins de presse étaient supprimés dans l'édition américaine, et là, c'est donc étendu à l'édition internationale. Comment avez-vous réagi, Xavier Gors, à cette décision?
J'ai été quand même très surpris, et particulièrement par la brutalité, la radicalité de la décision. C'est-à-dire que il y a un dessin effectivement qui posait problème concernant, comme vous l'avez rappelé, Netanyahou et Trump. Pour un dessin qui pose problème, c'est carrément l'espace du dessin qui est supprimé dans les pages du journal. Alors bon, on se pose quand même un petit peu des questions sur la capacité de résistance des rédactions par rapport aux pressions qu'il peut y avoir venant entre autres des réseaux sociaux.
Brutalité, radicalité, Patrick Chapat, vous utiliseriez les mêmes mots?
Ça dépend quelle perspective on prend. Soit, ce que moi j'ai, ça me semble difficile de pas le voir, un rapport de causalité avec cette affaire du dessin paru il y a un mois. Et dans ce cas-là, c'est une reculade qui est très inquiétante, surtout venant de ce qui semble être un des journaux, si ce n'est le journal le plus puissant aujourd'hui. Le New York Times n'est pas un journal en difficulté. Et pourtant, là, il donne un signe de reculer face à, en effet, une tempête qui s'est levée. Ils ont dû faire de la gestion de crise vraiment dans l'urgence pendant des semaines. Il y a aussi de grandes questions à se poser sur leur communication, leur manière de gérer cette crise. Et c'est ce qui m'a fait dire et écrire que aujourd'hui, dans ce rapport de force entre les réseaux sociaux qui sont puissants aujourd'hui, qui sont les plus puissants, Facebook, Twitter et les médias traditionnels, qui n'ont plus la position qu'ils avaient avant, ce rapport de force pose problème parce qu'on voit que les rédactions réagissent en reculant. En tout cas, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Le New York Times donne une autre explication. Ils disent que non, ça n'a rien à voir. C'est l'explication qu'ils m'ont donnée. Et que cette décision, ils allaient la prendre depuis un moment et que, en fait, c'est simplement que le dessin de presse n'est pas assez subtil et fin et pas bon pour le New York Times. Cette deuxième explication donne aussi quelques motifs de s'énerver. D'ailleurs, ça a provoqué énormément de réactions, pas seulement chez les dessinateurs, parce que c'est un mépris quand même assez énorme pour un genre qui est né avec la démocratie et un art pour lequel des gens payent de la prison. Aujourd'hui, notre ami Muzakart en Turquie et bien d'autres, ou bien sont forcés à l'exil pour défendre cet art de la satire et de la critique.
Et d'ailleurs, parmi les réactions, alors en tout cas des dessinateurs, on a pu voir des réactions en dessin, dont le vôtre, Xavier Gors, avec vos pingouins. Désolé, plus de dessins satiriques dans notre journal, dit l'un à l'autre. Pourquoi ça, répond l'autre, ça n'intéresse plus le lecteur, ça bouscule trop les consommateurs. C'est comme ça qu'il faut le lire?
Bah, on a un petit peu l'impression de ça, c'est-à-dire que le journal qui a auparavant exprimé un point de vue, un angle d'attaque sur l'actualité, bon, il continue à le faire. Bien sûr, il y a l'angle journalistique, mais le dessin de presse dans le journal permet d'aborder en mettant un trait d'incision, en utilisant l'humour, etc. Et donc c'est des choses qui raclent, ce sont des choses qui dérangent, qui bousculent. C'est fait pour ça, le dessin de presse, c'est fait pour être inconfortable. Et du coup, utiliser, comment dire, supprimer ce dessin, parce que justement ça gratte, ça veut dire qu'on considère plus le lecteur comme quelqu'un qu'on peut interpeller, mais comme un consommateur qu'il faut séduire pour pouvoir lui fourguer sa marchandise. Donc c'est ça qu'il y a derrière.
Il y a deux choses, hein, et là la question je la pose à vous deux, Patrick Chapat et Xavier Gorz. Il y a deux choses, il y a le dessin en lui-même, ce dessin en lui-même, et puis il y a l'espace réservé au dessin de presse. J'aurais bien qu'on distingue les deux. Ce dessin d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé l'un et l'autre? Est-ce que vous comprenez malgré tout que ce dessin ait posé problème, ou est-ce que là aussi vous avez trouvé que la réaction était quand même un peu trop forte? Comme si, d'ailleurs depuis plusieurs mois, les dessinateurs qui caricaturent Donald Trump sont dans le viseur. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Ça pourrait ressembler aussi à un geste d'apaisement envoyé au président, cette décision radicale. Xavier Gorz, sur le dessin en lui-même, représentant donc Benjamin Netanyahou en chien avec un Donald Trump aveugle qui tire la laisse.
Ben pour moi, c'est pas la représentation de Netanyahou en chien ou de Donald Trump en aveugle qui a posé le plus de problèmes.
C'est la caricature dite antisémite, avec la kippa sur la tête de Trump et le collier
et
autour du cou.
De David, voilà. Exactement. Et je pense que c'est là qu'il y a...
Il a été jugé antisémite.
Et je pense que... Alors, est-ce qu'il y a une volonté antisémite du dessinateur? Je ne pense pas. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il y a une mauvaise utilisation des symboles pour pouvoir identifier les personnages dans le dessin. Et utiliser des symboles religieux pour parler d'Israël, forcément on crée un amalgame entre juifs et Israël, et ça forcément ça pose problème, et ça a un petit parfum effectivement d'antisémitisme.
C'est des choses que vous refusez, que vous ne faites pas?
Moi, j'essaie d'éviter de mal utiliser les symboles. Après, on n'est pas infaillible et tout le monde peut se planter sur un dessin.
Donc, et on y reviendra. Et on y reviendra, oui.
Oui, mais parce que bon, voilà, on peut se planter sur un dessin. Je crois que c'est pas grave. Simplement, il faut dire qu'il peut y avoir effectivement une erreur. Je pense que le New York Times avait fait amende honorable, avait dit qu'effectivement, ils n'auraient pas dû publier le dessin.
Et ça suffisait.
Et je pense que c'est largement suffisant. Après, supprimer complètement l'espace de dessin de presse, c'est une façon de dire on n'est pas capable de gérer le dessin de presse, on ne sait pas comment ça marche, et finalement je me demande s'il n'y a pas une inculture de certains responsables de presse par rapport au langage de l'image et par rapport à la caricature en particulier.
Patrick Chapat, sur ce dessin lui-même.
Ce dessin, moi je le trouvais surtout pas bon, et ce qui n'est pas bon a des conséquences, mais il faut bien préciser que le New York Times avait jusqu'à présent des dessins maison, donc moi j'en livrais deux par semaine, et il y avait un dessinateur, Heng, qui est à Singapour et qui livrait un dessin hebdomadaire sur l'actualité asiatique, et les autres jours, donc trois jours par semaine, c'était des dessins d'agents, donc des dessins repris de la presse étrangère. Ce dessin était paru au Portugal. Antonio l'avait fait dans son journal pour un public donné.
Antonio c'est qui est donc l'auteur de ce dessin.
Voilà, et c'est donc un choix... vraiment d'un employé du New York Times qui devait faire la sélection des dessins. Il a choisi ce dessin, il l'a dûment choisi parmi beaucoup d'autres parce qu'ils ont vraiment le choix, et il l'a publié. Donc ne pas assumer un tel choix, se défausser sur quelqu'un d'autre, je crois que cet employé a toujours son job au New York Times, c'est assez particulier déjà comme démarche managériale. Et non, moi j'ai simplement écrit que ce dessin n'avait rien à faire dans le New York Times. Je ne vais pas dénier à l'auteur le droit de faire ce dessin. Je ne crois pas non plus qu'il avait une intention antisémite. Je crois par contre qu'il avait une intention clairement de politique, ce qui est le but du dessin de presse. Mais je crois qu'il a raté sa cible parce que l'image, en fin de compte, on s'est retrouvé qu'un chien et une étoile de David autour du cou, elle n'est pas terrible à voir. Elle fait un petit peu mal à voir. Et puis le message ne passe pas. Donc quand le message ne passe pas, c'est qu'on a raté.
L'auteur du dessin, donc Antonio Moreira Antunes, a raté ce dessin, dites-vous, Patrick Chapat. Il n'a pas.
Ça nous arrive à tous.
Et c'est ce que je voulais vous demander. Ça vous arrive de rater des dessins. Est-ce que ça vous arrive aussi de voir vos dessins refusés, Patrick Chapat?
Ah ben bien sûr, mais c'est totalement la règle du jeu. Les limites dépendent bien entendu du périmètre dans lequel on travaille. Donc travailler pour un journal satirique comme Charlie Hebdo ou travailler pour le New York Times avec ses éditions internationales, c'est pas le même périmètre, ou Le Monde ou d'autres. Et donc l'autocensure, ce qu'on appelle l'autocensure, c'est un autre nom, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire qu'on travaille en intelligence avec une rédaction et il y a un responsable de rédaction qui est responsable aussi légal de ce qui paraît. Donc on est courageux, parfois on dit les dessinateurs de presse fous du roi courageux, on est courageux à plusieurs, parce qu'on est aussi dans le cadre d'une publication. Mais moi, ça me va très bien ce système. Je travaille de manière collaborative avec le New York Times. J'ai travaillé près de 20 ans avec le Herald Tribune, puis le New York Times, avec une exposition dans, je sais pas, le journal est vendu dans 160 pays, avec le site web, il fait 3 millions d'abonnés. Et étonnamment, je n'ai pas eu de crise majeure. C'est presque surprenant. Je me demande ce que j'ai foutu. Mais c'est aussi parce que...
Ça racle pas assez, parfois, peut-être.
C'est parce qu'il y a un processus collaboratif. D'abord, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donc j'avais besoin de ce feedback, de travailler avec plusieurs esquisses, d'avoir des avis, et de finalement, je choisis celle de ce que je voulais faire. C'est du professionnalisme. C'est comme ça. Et des fois, on fait des erreurs. Malgré tout ça, on fait des erreurs. Et dans un monde normal, le journal qui a publié le dessin, eh ben, il va peut-être s'excuser, il va peut-être vous engueuler, mais il va pas... Est-ce qu'on va supprimer les éditos le jour où il y a un mauvais édito ou bien supprimer le journal le jour où il fait une erreur en une? C'est assez absurde comme attitude.
C'est ce que je disais, Patrick. En fait, c'est une façon de traiter le dessin de presse comme un troupeau de bovins. Quand il y a une vache malade, on liquide le troupeau, quoi.
Voilà. Bien vu.
Xavier Gorce, vous aussi, vous travaillez en bonne entente, en bonne collaboration avec le journal. Est-ce que vous vous êtes déjà vu refuser des dessins au Monde?
Oui, alors moi, ma situation au Monde est un petit peu particulière parce que je travaille pas en fait pour le quotidien lui-même, mais
là,
je travaille
Plantu,
pour le site internet.
Notamment.
Voilà, moi, je travaille pour le site internet et surtout pour la newsletter du Monde depuis 2002, depuis quasiment la naissance du site. Et c'est un strip qui est envoyé aux abonnés. Et alors, en fait, c'est un espace, une sorte d'espace réservé où globalement, je fais à peu près ce que je veux, quoi. Donc j'envoie mon dessin le soir et il passe le matin. Et c'est arrivé depuis 2002, donc ça fait 17 ans, je crois que j'ai eu 2 ou 3 dessins qui ont été refusés, ce qui est quand même extrêmement peu.
C'est pas beaucoup?
Mais non, c'est très très peu. Donc,
vous vous souvenez nécessairement lesquels ont été refusés et pour quelles raisons?
Oui, il y en a un, c'était pour... Alors en plus de ça, le premier, c'était un dessin qui devait passer dans le journal, parce qu'il y a eu un moment, pendant 4 ans, j'ai eu le dessin qui était publié dans la newsletter, était également publié dans le journal. Et donc c'était en lien avec un événement, et l'événement en question c'était le marathon de Boston, à l'issue duquel il y avait eu un attentat commis par deux frères tchétchènes, je crois. On m'avait demandé de faire le dessin, alors là c'était un travail avec une demande précise sur le sujet, et de faire un dessin sur l'attentat. Bon, le problème là c'est que arriver à calibrer de l'humour sur un événement dramatique comme celui-là, j'ai pas trouvé le truc. Ce que je leur ai proposé, ça leur a pas plu, ils m'ont dit oh non, ça on peut pas le passer. Donc je me rappelle plus ce que j'avais fait, mais bon, globalement, c'était un peu décalé, quoi, par rapport à un événement aussi dramatique. Et puis, le deuxième dessin qui a été refusé, ça, c'est beaucoup plus récemment, c'est à propos de la crise des Gilets jaunes, où dans un dessin, je disais que les Gilets jaunes, c'était pratique pour repérer les troupeaux d'abrutis. Et donc là, la rédaction
m'a interpellé.
Oui, un petit peu, oui, bah oui, c'est aussi un peu le boulot. Mais la rédaction a dit, bon, non, on n'insulte pas les gens, donc on passe pas le dessin. Mais comme disait Patrick, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est le choix rédactionnel. Ils ont parfaitement droit, c'est pas de la censure. C'est à un moment donné, le journal, le média, le rédacteur en chef sont responsables de ce qui passe dedans. Donc là, je rejoins complètement Patrick là-dessus. Si un dessin passe, c'est qu'il a été accepté.
Est-ce que vous craignez tous les deux une sorte d'effet domino? Est-ce que ça pourrait arriver en France, quelque chose comme ça, malgré la bonne entente, en tous les cas, avec les journaux dont vous parlez? Bon, bah évidemment, Patrick Chapat, vous perdez aussi, si la décision est confirmée, vous perdez un boulot quand même, puisque vous dessinez quand même très régulièrement pour le New York Times, pour l'édition internationale du New York Times. Mais est-ce que c'est propre aux États-Unis ou est-ce que ça pourrait arriver en France, par exemple? Patrick Chapat.
Mais moi, je crois que ça va bien au-delà du dessin de presse, en fait, et du fait que...
C'est un malaise plus profond.
Oui, et en fait, regardez ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que là, on est dans la fabrique de l'actualité, et il y a eu la fabrication de quelque chose de très très fort. Donc moi, j'ai publié lundi cette annonce en élargissant, en faisant une sorte d'avertissement pour dire ce qui est en jeu, là, je crois, sincèrement, au-delà des dessins, c'est le journalisme et c'est l'opinion, parce que ça donne l'impression très fâcheuse que le New York Times, qui est quand même le journal le plus emblématique au monde, recule face à la Horde. La Horde, c'est quoi? C'est cette tempête qui s'est soulevée et en grande partie alimentée par les réseaux sociaux. Quand il y a eu la publication de ce fameux dessin dont on a parlé il y a un mois, de notre collègue portugais. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On a l'impression que sur Internet aujourd'hui, les voix les plus énervées définissent la conversation. Et ensuite, il y a la foule moralisatrice qui suit. Et ça s'abat sur les rédactions. Les rédactions ne sont pas préparées. Je l'ai dit, les anciens médias ont une attitude totalement non préparée face aux nouveaux médias. Les médias traditionnels aussi, il y a une peur due à l'affaiblissement économique de perte des lecteurs. Mais regardez ce qui se passe depuis lundi. Cette histoire est partout. Elle est dans la presse mondiale. Le New York Times est en train de subir une avalanche de réactions. Bah, pour une fois, dans l'autre sens, mon fils qui a beaucoup d'humour m'a dit « Tu dénonces la meute et tu as créé une meute. » Parce que il y a maintenant, et je remercie d'ailleurs Xavier Dors, il y a eu des dessins de presse en soutien, Xavier en a fait un, et tout le monde se rend compte, mais vraiment au-delà des dessinateurs, que un petit effet Charlie aussi, ces valeurs pour lesquelles on s'est tellement battu, pour lesquelles on s'est rappelé après Charlie à quel point on y tient, l'humour, le dessin de presse comme pilier de la démocratie, né avec la démocratie, elles sont mises en danger. Et il faut à un moment donné dire stop, il faut que les journaux résistent, il faut qu'on Twitter n'est pas notre rédacteur en chef, et Twitter ne doit pas donner le ton, ce n'est pas le lieu du débat, c'est un lieu pour la fureur.
Donc finalement, le plus grand danger, c'est effectivement les réseaux sociaux pour vous.
C'est leur
aujourd'hui. Bah,
les réseaux sociaux sont aussi formidables puisqu'ils ont permis une contre-réaction à peu près mondiale où le New York Times est en train d'essayer de donner des explications et se retrouve un petit peu acculé quelques jours pour un juste débat. Hein. Mais non, c'est pas l'outil qui pose problème. De toute façon, on va pas les supprimer. C'est leur rapport qu'ils ont avec. C'est plutôt le rapport de la presse. C'est nous, en tant qu'individus, on n'arrive toujours pas à gérer nos smartphones. Hein, en tant qu'adultes, je ne sais pas comment c'est pour vous. Et en tant que société, on n'arrive toujours pas à se comporter de manière adulte vis-à-vis des réseaux sociaux.
Xavier Gors, vous êtes d'accord avec ce que dit Patrick Chapat?
Oui, je suis complètement d'accord, effectivement. Et puis,
Il y a un vrai problème d'usage des réseaux sociaux et de frilosité d'ailleurs de certains journaux par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils cèdent?
Je crois qu'ils ont peur, vraiment peur des emballements, des campagnes de bashing qu'on voit sur les réseaux. Et en même temps, il faut se rassurer un petit peu parce que même s'il y a beaucoup de monde qui attaque un dessin, un journal, etc., ça ne représente en fait qu'une petite minorité active. Donc ces gens-là, il faut les remettre à leur place, c'est-à-dire de ne pas en tenir compte.
Et reprendre la main, ça voudrait dire aussi ce que vous avez proposé d'ailleurs, hein, Xavier Gors, lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier. Vous avez proposé de lancer un appel pour que le dessin de presse soit reconnu comme un droit fondamental par l'UNESCO. Ça aussi, de répondre à cette menace de cette façon.
Alors, c'est pas ça qui va révolutionner le monde du dessin de presse, mais par contre, ça peut être un marqueur important à l'échelle mondiale. Et bon, quand on a commencé à lancer cette opération avec un certain nombre de dessinateurs, largement soutenus par Cartooning for Peace, qui nous a énormément aidés dans cette démarche, qui est encore en cours. Donc, on a lancé un appel à signature des dessinateurs, des rédactions, etc. On a déjà plus de 300 dessinateurs du monde entier qui nous soutiennent dans cette démarche, et l'idée c'est effectivement que le dessin de presse soit reconnu par l'UNESCO comme un droit fondamental. Bon, c'est une vaste ambition, on ne sait pas si on va réussir à aller jusque-là, mais l'idée c'est que ça devienne un marqueur, parce que on a ces problèmes-là dans les démocraties par rapport aux réseaux sociaux, mais ailleurs dans le monde, eh ben, les dessinateurs, eux, ont des vrais risques physiques, etc., de liberté d'expression, et c'est l'humour qu'il faut défendre, et le droit à la dérision face au pouvoir.
Comme le dit votre collègue Nicolas Vado, les dessinateurs de presse sont les canaris dans la mine. Quand ils arrêtent de gazouiller, le coup de grisou n'est pas loin. Voilà, l'idée, c'est de l'éviter. Merci beaucoup à tous les deux, Xavier Gors et Patrick Chapat, d'avoir participé à cette fabrique médiatique.